Bonsoir, entrons ensemble dans un temps du débat confiné, chacun chez soi, mais rassemblé par le travail des services techniques de Radio France et des techniciens qui sont, eux, encore à la maison de la radio. À l'ordre du jour ce soir, l'Europe dans la crise, tous ensemble et chacun pour soi. Après quelques hésitations au début de la crise, la réponse européenne a été massive, du moins au niveau économique. À terme, plus de 1 000 milliards d'euros vont être engagés pour atténuer la crise économique qui vient, la plus grande récession qu'a connue l'Union depuis sa création. C'est ce qu'a dit le commissaire européen à l'économie, Paolo Gentiloni, cette semaine. Mais le déficit d'incarnation, l'impression récurrente d'une tension entre pays du sud de l'Europe comme l'Italie, l'Espagne, ou même la France et pays du Nord ont quelque peu obscurci l'annonce de ces engagements financiers, sans compter que la santé demeure dans les traités dévolus aux nations qui composent l'Union. Une désagréable impression de chacun pour soi a surgi des débats sur le confinement, sur les masques, les médicaments et la coordination ratée du déconfinement. Comment lire l'action de l'Europe dans cette crise? C'est la question que nous allons poser à nos trois invités, à Pierre Manant, il est directeur d'études honoraires en philosophie politique à l'École des hautes études en sciences sociales. Son dernier livre s'intitule « La loi naturelle et les droits de l'homme ». À Calypso, Nicolaïdis, elle est professeure de relations internationales à Oxford. Elle est l'auteur d'un livre en anglais, « Exodus, Reckoning, Sacrifice, Three Meanings of Brexit », publié l'année dernière chez Unbound et qui n'est pas encore traduit en français. Et enfin, Charles Gorens est avec nous. Il est député européen du Luxembourg, membre du Parlement européen depuis 1982 avec des intermittences. Il est membre du groupe Renew Europe, qui est le groupe libéral, vice-président de la Commission des affaires constitutionnelles de ce même Parlement. Et en 2014, il a été le rapporteur d'une mission sur la fièvre Ebola et l'épidémie qui a suivi. Je vais commencer avec vous, Calypso Nicolaïdis, bonsoir. Vous êtes donc professeur de relations internationales à Oxford et vous avez eu la gentillesse de nous fournir pour la conversation mondiale un texte sur justement la place de l'Europe dans cette crise. Vous êtes spécialiste des questions européennes, en particulier au St. Anthony College, donc, et vous avez travaillé depuis longtemps sur ces relations entre nations et Europe. La crise a-t-elle changé quelque chose selon vous ?
Emmanuel, bonsoir et permettez-moi d'abord de partir du titre de votre belle émission pour remarquer qu'effectivement, ce qu'elle a changé, je crois, c'est qu'on vit de façon plus intense personnellement un clash entre deux temporalités qui est aussi ce qui définit l'Europe, c'est-à-dire d'une part, on a un présent qui se raccourcit radicalement, tout est dans l'immédiateté absolue, et en même temps, le temps s'allonge. Jamais on n'a entendu plus de monde d'après, de nos cauchemars et de nos désirs, alors que l'Europe, eh ben, elle est en fait mieux dans l'entre-deux. Et les États aussi, c'est-à-dire que bon, quand elle est dans le très court terme, ben, elle sait pas réagir vite. C'est une grosse machine, pas très efficace. Et puis elle arrive pas à se placer vraiment dans le long terme, ben, parce que la politique, elle n'est pas dans le long terme. Et donc dans cet entre-deux, ben, comme vous l'avez très bien résumé, ben, l'Europe a du mal. Et pourtant, je crois qu'elle a quand même appris les leçons de ses échecs passés, et en particulier les leçons de l'échec de la gestion, je crois, de la crise, au moins à court terme, en 2008-2010. Et aujourd'hui, effectivement, on est dans une sorte de logique d'apprentissage collectif, nous tous les Européens. Et cette logique, c'est toujours la même, c'est-à-dire que, on doit coopérer, évidemment, parce que, que ce soit d'un point de vue sanitaire ou économique, l'Europe est meilleure sur l'économique, sur le sanitaire, comme vous le disiez vous-même. Mais en même temps, plus que jamais, on voit que les États, mais aussi les régions, les villes, essayent de contrôler eux-mêmes la situation à leur échelle. Et donc, il y a une logique que j'ai effectivement décrite dans ce papier pour vous, qui est celle que j'appelle des cercles d'autonomie différenciés, qui sont liés à nos vulnérabilités, nos capacités réciproques. Et l'Europe est là, à ce moment-là, pour effectivement créer des sortes de ponts, des regards croisés entre ces cercles d'autonomie, mais aussi les rendre possibles. Rendre possible la façon dont les régions en France, les États, mais aussi nous, les familles, les individus, les voisinages, essayons de gérer nos propres cercles d'autonomie. Et en fait, c'est dans cet équilibre instable entre coopération d'un côté et contrôle de l'autre que l'Europe doit toujours se placer. Elle n'y arrive pas forcément, mais c'est ça le grand défi. Donc, il ne faut pas s'étonner que ce soit difficile.
Pierre Manant, bonsoir. Je rappelle que vous êtes spécialiste de philosophie politique et vous avez publié un article dans le Figaro qui était assez sévère justement sur cette question d'échelle qui vient d'être évoquée par Calypso Nicolaïdis, c'est-à-dire en disant tout compte fait, on s'aperçoit que l'Europe, elle n'a pas véritablement bien fonctionné selon vous, et surtout, on s'est retourné vers la nation, et c'est toujours une question importante que de savoir justement quelle est la bonne échelle de réponse à une crise. Qu'est-ce que vous en pensez, Pierre Manant ?
Je ne faisais aucun reproche en l'occurrence à l'Europe. Il m'est arrivé de faire des reproches à l'Europe, mais en l'occurrence, je ne vois pas de motif d'en faire. La crise a frappé intimement chaque nation, mais pas de la même façon. Donc nécessairement, la crise conduit chaque pays à se regarder lui-même, éprouver ses faiblesses, dans le meilleur des cas, sentir sa force. Mais donc, il est tout à fait naturel que la crise sanitaire nous fasse nous retourner vers nous-mêmes. Donc, l'impact que je vois de cette crise sanitaire sur l'Europe, ou le risque pour, je dirais, l'amitié européenne, c'est simplement que la crise frappant de façon différenciée les différentes nations, au terme de la crise, les nations soient davantage séparées moralement les unes des autres, et surtout qu'elles sortent les unes plus fortes et les autres plus faibles de la crise. Donc, ce que je redoute, si vous voulez, non pas pour les institutions européennes, non pas pour la construction européenne, mais pour l'amitié européenne, c'est que la crise accroisse l'hétérogénéité de l'Europe et les inégalités à l'intérieur de l'Europe, qui déjà, avant la crise, en menaçaient gravement, je dirais, la solidité.
Vous atténuez tout de même un peu ce discours, parce que tout de même, dans ce que vous avez écrit pour le Figaro, cet entretien que vous avez donné au Figaro, vous dites c'est la fin du bovarisme européen, aucune merveilleuse aventure ne nous attend du côté européen de la rue.
Oui, mais ce que je veux dire simplement, c'est que l'Europe est ce qu'elle est. C'est une construction baroque, mal fichue, qui finalement a produit beaucoup moins d'effets positifs que l'on en espérait. Elle n'a pas produit non plus les catastrophes que certains pouvaient redouter. Mais enfin, je dis aujourd'hui, elle a pris une sorte de forme définitive. Elle est de toute façon trop lourde, trop encombrée, trop encombrante pour supporter de grandes réformes qui en changent véritablement la physionomie. Donc, où en sommes-nous ? Nous avons des habitudes de collaboration, mais fondamentalement, nous avons découvert que nous vivons dans nos nations et que nous continuerons de vivre dans nos nations. Donc, notre avenir sera déterminé principalement par la façon dont chacun dans sa nation fera face aux crises qui se présentent. Simplement, ce que nous pouvons espérer, c'est que nous fassions les uns et les autres face aux crises qui se présentent chez nous d'une façon qui ne rompe pas ce que j'appelle l'amitié européenne. Et si j'avais une certaine colère dans mon propos du Figaro, ce n'était pas à l'égard de l'Europe, c'était plutôt à l'égard de la réaction du gouvernement de mon pays, de ma nation alors, n'est-ce pas, où j'ai eu le sentiment que c'était l'État français dans ce qu'il a de plus pesant, lourd, empoté et autoritaire en même temps.
Moins libéral aussi.
Et moins libéral. Qui sautait aux yeux. Donc, si vous voulez, ce qui m'a sauté aux yeux, ce n'est pas la faiblesse de l'Europe, c'est, je dirais, l'inertie autoritaire de l'État français.
Charles Gorens, vous qui êtes depuis longtemps donc membre du Parlement européen, votre premier mandat commençait en 1982, vous êtes membre du groupe libéral Renew Europe, comment jugez-vous justement cette réaction européenne? Vous êtes peut-être le plus optimiste vis-à-vis de ce qui a été fait pendant cette période de crise justement par l'Europe, que ce soit par la Commission, mais également par le Parlement et par toutes les agences, la BCE ou les organismes indépendants qui sont dans cette Europe.
Oui, bonsoir. À mon tour, j'aimerais vous dire d'abord que l'Europe est de loin meilleure que la réputation que d'aucuns veulent bien lui faire. L'Europe a réagi, contrairement à ce qu'il est convenu de dire, très rapidement. Elle a réagi de façon au plan budgétaire. Elle a débloqué en fait tous les fonds qui étaient encore en réserve. La Banque Centrale Européenne, quant à elle, a été extrêmement rapide, a annoncé un paquet de plus de 800 milliards pour intervenir directement en vue de gonfler un peu les liquidités sur les marchés des capitaux européens. Et puis, ça c'est dans la réponse immédiate de l'Union européenne. Vous avez raison de dire que l'Union européenne n'a pas de compétences directes en matière de santé. Néanmoins, on pourrait dire que c'est un domaine de compétences partagées, où les États membres ont quand même plus à dire que la Commission. Ce que la Commission pourra faire, ou pourrait faire, ce qu'elle fait d'ailleurs, c'est s'offrir en facilitateur. Elle peut apporter des solutions, il y a des mécanismes de coordination qui sont en place. Moi, je dirais ceci. En temps normal, l'Union européenne réagit trop lentement. En temps de crise, elle se ressaisit. On fait des lois, on n'a rien de temps, on a débloqué des fonds, et puis dans quelques jours, on se penchera sur le plan de relance. La Commission a été appelée par le Conseil européen à définir une approche. Le Parlement européen, quant à lui, a adopté une résolution à une majorité assez confortable. Donc, les conditions de stabilité politique pour faire passer un plan ambitieux de relance sont réunies, au plan législatif au moins. Donc, moi, je serais quand même moins pessimiste. Les temps sont très durs.
On attendait tout de même pour le 6 mai, théoriquement, donc pour cette semaine, le plan de relance dont vous parliez. On va attendre encore quelques jours. Visiblement, il n'est pas encore tout à fait prêt.
Oui, écoutez, une semaine ou deux semaines de plus, ça ne va pas casser trois pattes à un canard. Attendons de voir. Moi, je reste quand même assez confiant. En tout cas, je crois que Mme von der Leyen va présenter un plan de relance très audacieux.
Calypso Nicolaïdis, vous insistiez dans le texte que vous nous avez confié pour la conversation mondiale et qu'on peut lire sur le site de France Culture, vous insistiez sur cette question de temporalité qui est visiblement au cœur des relations entre les nations qui composent l'Union et l'Union elle-même. Et vous disiez une belle phrase d'ailleurs, vous disiez « l'Europe devrait devenir la gardienne du long terme ». Qu'est-ce que vous entendiez par là? C'est-à-dire, est-ce qu'elle ne doit pas se mêler justement des questions, éminemment contingentes dans une crise? Qu'est-ce que vous entendiez par ce terme de « gardienne du long terme »
Eh bien, écoutez, ça peut effectivement paraître un peu provocateur dans un moment où nous vivons l'urgence, et ça ne veut pas forcément dire que l'Europe n'aide pas les États à gérer une crise du très court terme. Mais je crois qu'effectivement, l'Europe, depuis un certain nombre d'années, s'installe dans cet état d'urgence qui ne lui va pas. Parce qu'après tout, on sait, j'en reviens au thème de Pierre Manon, que la démocratie, la politique, se fait avant tout dans nos États. Et que au niveau européen, finalement, c'est peut-être l'envers de son défaut de démocratie, c'est de dire, eh bien voilà, vous savez, les démocraties, c'est toujours très court terme, c'est bien, hein, il faut bien gérer nos vies communes au court terme, mais l'Europe, puisqu'elle met des États et des actes, toutes sortes d'acteurs ensemble autour d'une table, elle peut créer une logique. On sait très bien à quel point nous avons besoin de gérer ce long terme de l'environnement, de la finance, de notre système capitaliste dans son ensemble. Il s'agit d'organiser pour l'Europe un autre plan où les citoyens des nations puissent discuter ensemble de la façon des vrais coûts pour gérer ce long terme. Et effectivement, on entendait à l'instant Charles résumait la situation à laquelle nous faisons face. Eh bien, la Commission avait des priorités de long terme, une grande ambition du plan écologique au niveau de l'Europe, en utilisant la Banque européenne d'investissement, en utilisant le budget européen. Eh bien, il faut être fidèle à cette vision de long terme qui, effectivement, était développée avant que cette crise explose. Il faudra, par exemple, que si on a des plans de relance dans les différents pays pour certaines industries, eh bien, ils soient conditionnels par rapport à des visions de long terme. Et je dirais que ça, tout ça veut dire que l'Europe doit, effectivement, effectuer un pivot entre une obsession partant aujourd'hui son obsession pour l'espace, la gestion de l'espace, la gestion du marché unique sans frontières. Bon, ça c'est là, c'est un acquis qu'il faut gérer, qui est compliqué, mais il faut passer à la logique du temps. Et cette logique-là, l'Europe sera mieux à même de le faire, justement parce que finalement, elle peut devenir une démocratie transnationale à longue vue. Et là, je dirais que c'est juste pour en finir sur ce point, que Pierre Manon a peut-être raison que l'Europe ne doit pas faire des grandes réformes institutionnelles, mais elle doit vraiment réinventer la manière dont les peuples et les démocraties communiquent à travers les frontières pour penser le long terme. Ça, c'est une vision qui peut galvaniser un nouvel amour pour l'Europe, j'espère.
Oui. Pierre Manon, qu'est-ce que vous pensez de cette proposition, justement, temporelle plutôt que spatiale de Calypso Nicolaïdis?
Oui, je partagerai cette idée que, au fond, l'action se tournant nécessairement vers l'avenir, le temps est premier. Donc, dans ce cas, je serais d'accord pour choisir le temps plutôt que l'espace. Mais le long terme, comment dire? Bien sûr, mais l'action humaine, individuelle d'ailleurs ou collective, réclame pour être accompli un certain sentiment d'urgence, n'est-ce pas? Donc, il faut avoir des vues à long terme, mais il faut aussi avoir une capacité de mobilisation ici et maintenant. Or, c'est cela, me semble-t-il, qui manque à l'Europe, c'est l'articulation entre les vues à long terme et le sentiment d'urgence. Par exemple, cela fait des décennies pratiquement que l'on envisage de faire une défense européenne, une diplomatie européenne, mais chaque fois que l'urgence se présente, que ce soit les rapports avec la Russie, la Chine ou le président Trump, eh bien, manque le ressort pour agir et réagir immédiatement. Donc, la question qui se pose, c'est comment nos pays, les différents pays qui composent l'Europe, pourraient nourrir le sentiment d'une urgence commune, voilà. Et je crois que, en effet, notre condition première, c'est que, et nos nations prises séparément, et l'ensemble européen pris comme ensemble, sont en ce moment dans une période, hélas, de grande faiblesse. Faiblesse des nations, faiblesse de l'Europe. Et il faudrait, si j'ose dire, que ce sentiment éprouvé dans les nations, éprouvé dans l'ensemble européen, produise en quelque sorte un mouvement d'ensemble pour affirmer un projet collectif qui serait administré par les États, mais dans un horizon de coopération européenne pour consolider, je dirais, l'action commune européenne.
Ce qui vous désole, en fait, oui, Pierre Manon, c'est la faiblesse des nations qui conduit à la faiblesse de l'Europe dans votre vision, justement, de philosophe du politique.
Pour moi, si vous voulez, d'une certaine façon, le débat Europe-Nation n'a plus tellement lieu d'être, pour la raison que j'ai dite en commençant. Nous avons fait quelque chose qui est là, une certaine Europe. C'est avec ça qu'il faut travailler. Mais le drame aujourd'hui, c'est pas la dispute entre les nations et l'Europe, ou entre l'Europe et les nations, c'est la faiblesse générale, aussi bien des nations que de l'Union européenne. Donc voilà, comment pouvons-nous produire de la force? De la force diplomatique, de la force militaire, de la force, je dirais, morale. Comment ne pas se laisser en permanence intimider par ceux qui nous entourent, intimider par les États-Unis d'Amérique, intimider par la Russie et aujourd'hui particulièrement intimider par la Chine. Je n'allonge pas la liste de tous ceux qui nous intimident. Donc voilà ouais, pour moi l'enjeu principal de l'Europe, c'est dans cette visée d'action commune et non pas de construction institutionnelle, n'est-ce pas, que pour moi l'Europe peut se sauver et nous sauver, ou je veux dire que les nations européennes peuvent retrouver une certaine visée positive de leur avenir.
Charles Gorens, est-ce que vous avez ressenti au Parlement européen ces tensions dont je parlais au tout début entre nations dans le cadre de la crise? On sait combien la crise met justement en crise tous les systèmes politiques en particulier, mais également commerciaux. Est-ce que vous avez senti cette effervescence, voire cette concurrence au sein des nations européennes dont on parlait depuis le début de cette émission?
Oui, on l'a vu avec la fermeture des frontières qui n'apporte rien à la solution du problème du Covid-19. Il y a eu des entorses au fonctionnement du marché intérieur, ce qui est inadmissible. Et puis chacun est bien entendu centré sur la solution de ces problèmes. L'Allemagne peut investir beaucoup plus dans le sauvetage de son économie que la France ou l'Italie. À titre d'exemple, la Commission vient d'ouvrir les vannes pour ce qui est donc l'injonction de liquidité, pour ce qui est aussi de d'autres aspects économiques. Les aides d'État, par exemple, sont aujourd'hui ne sont plus conformes aux mêmes règles, aux mêmes codex que celui qui a prévalu avant la crise. Aujourd'hui, l'Allemagne, qui représente à peu près 25% du produit national brut européen, a sur l'ensemble des aides d'État une part de 52%, alors que la France et l'Italie sont à 17% de l'ensemble des aides d'État accordées au sein de l'Union européenne. Ça risque de produire des déséquilibres, il va falloir les gommer ou les combler par d'autres interventions. C'est la raison pour laquelle le Parlement européen s'est prononcé en faveur d'un plan de relance très audacieux qui, bien entendu, devra faire en sorte que l'argent arrive là où on en a le plus besoin. Le défi qui est devant nous, c'est un fossé est-ouest qui risque de se creuser, un fossé nord-sud qui risque de se creuser. Donner des compétences à l'Union européenne et elle agira là où elle a des peines à faire ressortir des solutions, c'est où elle n'a que des compétences partagées ou où elle n'a que des compétences, appelons ça facilitateur ou médiateur. Je voudrais quand même dire que dans les domaines où elle a des compétences, elle a fait des merveilles, dans le domaine monétaire, dans le domaine commercial, ça marche très bien. En matière de lutte contre le changement climatique, s'il n'y avait pas eu l'Union européenne, on ne serait nulle part. Et puis, je crois que la vocation de l'Europe est claire à ce moment. Au moment où le président des États-Unis veut retourner aux pratiques d'avant 1945, donc à l'ordre international d'avant 1945, c'est à l'Europe de s'ériger en champion de défense, de protection du multilatéralisme.
Merci Charles Gorin, vous êtes avec nous ainsi que Pierre Manant et que Calypso Nicolaïdis dans un débat du temps du débat intitulé « L'Europe dans la crise, tous ensemble et chacun pour soi ».
France Culture, le temps du débat, Emmanuel Laurentin.
Calypso Nicolaïdis, si on refait le compte de ce qui s'est passé pendant ces trois derniers mois autour de la crise du coronavirus en matière européenne, on se dit, eh bien, il y a eu effectivement cette injection massive d'argent pour pouvoir éviter une crise. Il y a eu beaucoup de milliards qui ont été mis sur la table par l'Union européenne pour pouvoir défendre l'économie des pays qui risquent d'être mis en crise. Mais il y a eu aussi des tensions qui sont apparues très récemment, comme cette Cour constitutionnelle allemande qui s'est érigée en juge de la Banque centrale européenne après l'accord d'assouplissement quantitatif européen de 2015. C'est une affaire ancienne puisque ça a été lancé par une plainte, je crois, de l'AFD, l'extrême droite allemande, auprès de cette Cour constitutionnelle allemande, mais qui tombe au plus mauvais moment, pourrait-on dire, puisque, par exemple, Guy Verhofstadt, donc qui est aussi du mouvement Renew Europe, comme Charles Gorens, a dit si toutes les cours constitutionnelles de tous les États membres se mettent à donner leur interprétation de ce que l'Europe peut ou ne va faire, c'est le début de la fin. Qu'est-ce que vous en pensez, Calypso Nicolaïdis, de ce couac en plein milieu de la crise? Justement.
Ben, je crois que vous et Guy avez raison. C'est pas un bon timing au moment où on essaye de faire en sorte que les marchés suivent et permettent aux États européens de faire face. Cette cour a l'air de dire, eh ben écoutez, Banque centrale européenne, c'est peut-être pas très approprié de racheter toutes ces dettes publiques des États. Et nous, on remet en question la façon dont vous l'avez fait pendant la crise financière. Mais finalement, le nouveau programme d'urgence contre la pandémie qui a été mis en place dans les dernières semaines par la Banque centrale serait encore plus vulnérable à ce raisonnement, parce que son raisonnement, dans un premier temps, eh bien, c'est de dire, comme tout le monde le dit, c'est-à-dire que ça fait longtemps que les monétaristes allemands panique à l'idée que cette Banque centrale européenne ne serait pas très allemande et qu'elle puisse alimenter l'inflation en rachetant ses dettes. D'accord, on comprend leur obsession. Ils veulent, mais je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter outre mesure. À part le fait que il faut effectivement rassurer les marchés parce que cette banque centrale européenne trouvera bien un équilibre entre ne pas répondre directement à une cour nationale qui n'est pas son patron, mais en même temps donner des arguments à la banque centrale allemande pour qu'elle soit satisfaite et ne suive pas forcément ce que lui demande de faire la cour européenne. Enfin, en tout cas, une interprétation qui nous permettra d'aller de l'avant. Mais je crois que il faut quand même répondre à la cour sur ce qui est le temps le plus long, sa préoccupation de long terme, qui est non seulement une mise en cause du principe de primauté du droit européen sur droit national. Mais enfin, là, il faut quand même avouer que c'est pas forcément mal que les banques, que les cours nationales donnent leur avis et rentrent dans une sorte de pluralisme et de dialogue, du moment que, en fin de compte, la Cour européenne a le mot final. Mais ça, c'est la philosophie horizontale européenne. On est toujours en dialogue d'interprétation. Mais plus fondamentalement, ce que la Cour allemande a toujours soulevé, c'est la question de la démocratie et de l'interdépendance entre nos démocraties et de savoir si la mutualisation de nos dettes n'irait pas à l'encontre de l'autonomie démocratique de chaque pays. Alors évidemment, on peut lui répondre là-dessus. On peut répondre que nous sommes tous responsables de cette monnaie commune. Toutes nos démocraties le sont. Mais il y a une vraie discussion à avoir. Il ne faut pas rejeter le propos de cette cour allemande comme si elle n'avait pas de lien avec notre crise économique. Et il faut lui apporter des réponses réelles, et en particulier que si on veut que les États ne soient pas dépendants les uns des autres dans leurs dettes, dans ce que les États du Nord considèrent comme des comportements non responsables. Parce qu'on pourrait aussi là-dessus ne pas être d'accord. Mais en tout cas, il faudrait des ressources communes propres à l'Europe pour justement ne pas rentrer dans cette logique de démocratie qui se mord de la queue.
Et, vous voulez dire une fiscalité européenne,
c'est le vrai problème du budget européen. Comment ?
Vous voulez dire une fiscalité européenne, par exemple ?
Mais disons qu'il faudrait, si on veut que nos États n'interviennent pas trop dans ce qu'ils font chacun, qu'on dise à la France comment dépenser son budget ou à l'Italie, eh bien il faudrait qu'effectivement qu'il y ait des ressources propres européennes, un budget un peu plus conséquent que 1% du PNB européen, pour justement faire face à ces grands défis de long terme dont nous parlions avant, mais avec une base démocratique, une base transnationale démocratique.
Charles Gorins, qu'est-ce que vous pensez de cela? Parce que tout de même, cet argent qu'on va dépenser, qu'on jette pour pouvoir sauver justement les nations européennes dans cette crise, il va bien y avoir des gens qui vont payer cet argent au bout du compte, qui vont payer les intérêts, et en particulier les générations à venir. On s'endette pour des générations, c'est-à-dire qu'il y aura une génération Covid, peut-être, comme certains le pensent, et on en parlera dans le temps du débat la semaine prochaine, des jeunes qui aujourd'hui donc vont devoir justement gérer cette vision de long terme au point de vue économique.
Ah, vous avez bien posé le problème. Les adolescents d'aujourd'hui seront encore occupés à rembourser la dette contractée en 2020, lorsqu'ils auront atteint la midlife crisis. Ce coût sera énorme, il sera considérable, mais le coût de l'alternative sera encore supérieur. Ou bien on se replie sur soi-même et on n'arrivera nulle part, ou bien on commence à mutualiser, à être plus solidaire, à mutualiser les efforts pour surmonter cette crise. L'Allemagne, dont vous avez parlé il y a un instant, est le plus grand profiteur de l'intégration européenne. Si elle avait encore le Deutsche Mark serait tellement fort que ses exportations n'auraient jamais pu grimper du sommet qu'elle a réussi à passer ces dernières années. Donc l'Allemagne dépend aussi des autres. Elle dépend du pouvoir d'achat des autres. Elle exporte 50% de sa production industrielle dans l'Europe et 50% à l'extérieur. Je crois qu'on devrait faire l'inventaire de tous les renoncements à une politique de solidarité. Je pense notamment à l'immigration. En 2013, on a laissé l'Italie seule. En 2015, on a laissé l'Allemagne seule. Le résultat, c'est qu'en Italie, on a aujourd'hui Salvini. En Allemagne, on a l'AFD. Alors, ce que vous avez dit à propos de la Cour constitutionnelle allemande, c'est assez préoccupant, mais je crois qu'il ne faut pas le surestimer. le droit européen continue à primer le droit national. Et je crois que la Banque centrale européenne ne sera pas attaquée dans son indépendance. Mais il va falloir s'expliquer sans donner trop d'importance ou de surimportance à l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Mais le grand absent de la politique européenne, c'est le long terme, c'est la solidarité, c'est aussi l'incapacité de rendre obligatoire le respect des valeurs fondamentales. Pensez à la Hongrie et à la Pologne, là où nous avons encore de beaux jours devant nous.
Pierre Manant, vous qui êtes un spécialiste de philosophie politique, qui adorait, vous avez passé votre temps de recherche justement à regarder ces systèmes politiques, de les voir évoluer, etc. Est-ce que tout compte fait, ce qui est en train de se passer depuis 2008 et encore plus depuis 2020 en Europe n'est pas un moment très exceptionnel pour pouvoir voir comment justement des systèmes bancals, vous nous avez dit cela à propos de l'Europe, mal fichus au départ, eh bien tentent de surmonter des crises financières d'abord, sanitaires ensuite, en bricolant justement des réponses à ces crises à la fois dans le court terme et dans le plus long terme.
Dans les dernières années, la Cour constitutionnelle allemande a répété que l'Allemagne était une démocratie représentative dont le Parlement était souverain. Donc, quand on parle de la supériorité du droit européen sur le droit national, oui, dans une certaine mesure, mais tout ceci est rendu extrêmement incertain et fragile parce que d'autre part, chaque pays se gouverne lui-même et lui-même souverain par son parlement ou par sa représentation nationale. En tout cas, la Cour allemande a toujours souligné la souveraineté et a répété et a rappelé récemment la souveraineté du Parlement allemand. Donc, cette décision de allemande est quand même plus importante que mes interlocuteurs ne le disent parce qu'encore une fois, elle confirme ce qui est la conviction allemande. Alors, c'est à la fois une conviction politique et c'est aussi une conviction économique, financière. Je ne crois pas que, en raison précisément de cette position allemande, dont M. Goerens disait à juste titre que l'Allemagne avait profité largement des derniers développements de la construction européenne, oui, certainement, mais cela rend en quelque sorte encore plus précieuse aux yeux de l'Allemagne, la situation dans laquelle elle est, et qu'elle ne veut pas affaiblir. Donc, je ne pense pas du tout que l'Allemagne renoncera, en quelque sorte, à sa doctrine, qui est à la fois une doctrine juridique constitutionnelle et une doctrine économique et financière, qui se réunissent dans ce point que l'Allemagne ne veut pas que les conditions de son action soient déterminées par ce qui se passe dans les autres pays européens, par les décisions bonne ou mauvaise, et aux yeux des Allemands plutôt mauvaise, des autres pays européens. Donc, voilà, je crois que nous sommes devant les institutions européennes sont devant une situation assez délicate. C'est une négociation qui s'est déjà déroulée dans les années précédentes entre la chancellerie d'un côté et la Banque centrale européenne. Alors, Monsieur Draghi a joué très habilement pour assouplir les positions allemandes, mais dans certaines limites. Madame Lagarde le fera certainement aussi, mais encore une fois, il ne faut pas surestimer les possibilités de la négociation européenne. Le budget commun européen est dérisoire, si vous voulez, par rapport au budget global de nos nations, 1%, le rappelait Madame Nicolaïdis. Donc, véritablement, les paramètres de notre situation politique, juridique et financière ne sont pas tellement susceptibles d'être modifiés. Donc nous sommes là dans une situation extrêmement précaire et le cœur de cette situation, c'est tout de même que ce qui tient l'Europe ensemble, c'est en même temps ce qui l'empêche de se réformer profondément, et c'est ce que j'appelle, après bien d'autres, l'hégémonie allemande, n'est-ce pas ? L'Europe s'est construite dans la dernière période autour de l'Allemagne et de sa façon de penser la vie commune, c'est ainsi, mais ça lui donne sa consistance, mais cela limite sérieusement aussi ces possibilités de réforme. Donc,
c'est ce que vous disiez à propos de la croissante inégalité justement au sein de l'Europe.
Oui.
On sait par exemple que dans les prévisions de croissance de l'Europe qui ont été publiées cette semaine par la Commission, on voit que tous les pays qui vont avoir la plus grande récession l'année qui vient, ce sont des pays du Sud, tandis que les autres vont avoir une récession mais bien moindre, par exemple.
Voilà. Ce que je veux dire, c'est que nous, dans nos nations, en particulier les nations du Sud, nous ne devons pas nous faire d'illusions. Nous ne pourrons pas, en quelque sorte, obtenir grand-chose, n'est-ce pas, de l'Europe. Ce seront nos politiques qui nous feront sortir glorieusement, ou en tout cas de façon satisfaisante de la crise, ou pas. Mais tout va dépendre de nous, l'essentiel va dépendre de nous à l'intérieur de nos nations, parce que l'Allemagne ne nous donnera pas, par l'intermédiaire de l'Europe, ne nous donnera pas ce que nous semblons apparemment désirer ou attendre qu'elle nous donne. Non. Les paramètres de l'action commune ne vont pas changer fondamentalement.
Calypso Nicolaïdis, sur cette critique de Pierre Manan et sur ce constat que effectivement l'Allemagne est la plus puissante de tous les pays européens.
Bien sûr qu'elle l'est, et elle-même, ce qui lui fait le plus peur, c'est sa propre hégémonie. En tout cas, ce qui l'inquiète, bien sûr que, comme le disait Charles tout à l'heure, l'Allemagne devrait reconnaître à quel point l'Europe l'a servi économiquement et surtout l'euro. Et ça, on l'entend très peu dans les discours en Allemagne, encore aujourd'hui dans les débats sur la solidarité. Mais en même temps, je crois que l'Allemagne assume en même temps son rôle dans des moments de crise, et on l'a entendu par Merkel. Je crois qu'il ne faut pas non plus être défaitiste là-dessus, sachant que elle nous demande effectivement de reconnaître ce que Pierre Manan nous disait, c'est-à-dire que c'est à l'intérieur de nos nations, mais je dirais même le niveau infranational, les villes, les régions, qu'il faut agir. Et là, je voudrais quand même en revenir finalement au fait que ce dont nous parlons encore et à nouveau au niveau européen, c'est la place du citoyen, c'est la place de la démocratie. Et je crois que cette crise, elle le démontre mieux que n'importe quand dans les années passées, c'est-à-dire que c'est les citoyens qui gèrent la crise, en fin de compte. C'est eux qui acceptent ou pas de s'enfermer. C'est eux qui gèrent leur rapport à l'autre quand ils sont dans la rue. C'est en fait ça, la démocratie. La démocratie, c'est du vécu quotidien. Et cette Europe doit réapprendre à donner confiance aux citoyens. Ça paraît bateau de le dire, mais on est dans un grand débat. Ce que la Cour allemande soulevait, elle dit, je me base sur cette clause d'éternité dans la constitution allemande qui veut que nous soyons effectivement une démocratie représentative. Il faut apprendre à gérer nos démocraties horizontalement, c'est-à-dire qu'on s'aide les uns les autres. C'est pas forcément Bruxelles. Effectivement, Bruxelles n'a pas assez d'argent ou de pouvoir pour faire grand-chose. Mais il faut que l'Europe soit un terrain où nous apprenons à nous renforcer les uns les autres.
Charles Goerens, pour conclure, cette décision de la Cour constitutionnelle allemande est peut-être plus importante que ce que vous ne mentionniez tout à l'heure, parce que ceux qui se sont félicités de cette décision, c'est l'AFD, et c'est donc, on parlait beaucoup de la question de la nation, mais il y a derrière la nation l'outrance de la nation, c'est le nationalisme. Est-ce que vous ne craignez pas justement que cette crise que nous vivons ne conduise à un surcroît de nationalisme dans nos pays européens?
Bien entendu, il faut rester hyper alerte, mais je crois que le mouvement ne va pas toujours dans le même sens. Si vous regardez en fait les résultats des dernières élections européennes, il y a un ressaisissement des Européens en l'absence de crise, et quand vient une crise, moi je crois que là, les vertus de l'intégration européenne sont redécouvertes. Voyez un peu ce qui se passe au lendemain des grands bouleversements. Les Européens les plus convaincus, vous savez où ils sont aujourd'hui? Ils sont au Royaume-Uni. Il y a des millions de jeunes qui aspirent à redevenir citoyens européens. On a fait une croix sur une partie de leur libre circulation, sur les acquis de l'intégration européenne. Je crois qu'il faut être plus optimiste. Nous avons devant nous le grand défi de la conférence sur l'avenir de l'Europe. Et j'espère qu'enfin, on pourra aborder ces problèmes. Le problème de la solidarité, le problème de la mutualisation, la solidarité bien conçue et payante pour tout le monde. Je suis sûr que cette crise sera le point de départ d'une réflexion plus profonde et il va falloir s'attaquer aussi aux traités. Regardez par exemple ce qui se passe vis-à-vis de la Hongrie et de la Pologne. L'état de droit est mis en berne, la justice est à la botte d'autocrates, la presse est muselée. Ce qu'il faut faire, c'est consolider l'article 7 du traité de Lisbonne et mettre fin à cette unanimité dont on a besoin pour condamner un pays qui s'est rendu responsable de violations des droits fondamentaux.
Tout le monde ne sera pas d'accord, bien évidemment.
Sur ces plans. S'il vous plaît.
Tout le monde ne sera pas d'accord, évidemment, avec votre lecture et en particulier ceux qui considèrent effectivement que la question de l'autonomie du national au sein de cette Europe est plus importante que la question de la coordination entre pays européens au sein de cette Union européenne. Merci en tout cas, Charles Gorens, d'avoir été avec nous. Merci à vous, Calypso Nicolaïdis. Je rappelle que vous avez écrit un texte sur le site de France Culture dans le contexte de la conversation mondiale lancée par le temps du débat et on peut le lire sur notre site. Et merci grandement à vous, Pierre Manant, d'avoir été avec nous pour parler philosophie politique et de ce regard de tension entre nos nations et l'Europe qu'elles construisent. C'était le temps du débat. Merci à toute l'équipe, Chloé Cambrelin, Rémi Baille, Antoine Tricot, Fanny Richet, Hugo Boursier et Manon Prissé, qui préparent avec moi ces émissions et qui continuent de nourrir justement chaque jour la conversation mondiale en publiant des textes d'intellectuels, écrivains et artistes du monde entier. Je vous conseille par exemple cette semaine la lecture des textes de la féministe américaine Joan Tronto sur le soin ou encore de la polonaise Agnieszka Żuk. Merci au service web de France Culture qui nous épaule dans cette tâche. Merci aussi pour cette émission enregistrée chacun chez soi à Jean-Marc Claus, Christian-Denis Lecèvre et Marie-Christine Vesely. À la technique aujourd'hui, il nous a accompagné toute la semaine depuis la Maison de la Radio et nous l'en remercions, Nasser Moussaoui, à la réalisation Alexandre Manzanares, qui est pour beaucoup dans l'enthousiasme que nous avons eu dans la réalisation de cette radio confinée. On le remercie depuis la Bretagne où il vit et on le remercie d'avoir été à nos côtés dans cette innovation radiophonique qu'est la radio confinée. Merci à tous et la semaine prochaine, eh bien, nous parlerons dès lundi de la question des masques, comment vivre dans une société masquée. Ce sera le thème du temps du débat. Merci à tous.